du fond de nos cœurs, pour ce moment que tu nous donnes encore dans cette nature si belle. Nous ne nous lassons pas de la contempler, puisque toutes tes œuvres te célèbrent. Tu es magnifique par toute la terre. Donne-nous d'avoir encore des yeux qui voient, des oreilles qui entendent le souffle de la brise, le chant des oiseaux. Donne-nous encore de nous émouvoir devant tant de beauté. Alors que nous pourrions être dans un désert, nous sommes dans une oasis de paix. Nos cœurs te célèbrent et te louent. Nous voudrions être en harmonie avec toutes ces beautés de la création. Alors que si souvent nous entendons la voix humaine blasphémer, maudire, les murmures, la révolte contre un ciel qu'on croit pourtant vide et contre lequel pourtant on fait le point. Ô Dieu, donne-nous des cœurs qui écoutent en effet ce matin et que tu nous rompes le pain de la parole de Dieu pour qu'elle soit nourriture de nos âmes et force de notre vie. En Jésus. Amen. Eh bien, vous voyez, nous arrivons déjà en ce matin du 22 juillet, presque au milieu de ce premier camp, où nous posons toujours cette question, qui donc est Dieu, parce que nous voudrions le connaître. Et nous poursuivons notre étude dans le Cantique des Cantiques. Ce matin, chapitre 3, versets 1 à 5. Mais je voudrais vous rappeler encore que parmi les multiples applications de ce livre, parce que je ne peux pas vous les faire toutes, j'insiste sur le fait que à l'école de Jésus, pour séjourner, nous avons été conduits à découvrir Dieu dans ses pages et en même temps à considérer les diverses étapes de notre vie spirituelle, parce que c'est cela que nous voulons souligner dans ce camp. Le Cantique des Cantiques nous montre ou fait passer un tableau des diverses étapes de notre vie spirituelle et de notre croissance dans cet amour de Dieu qui se découvre à chaque page de ce livre. Et dans le deuxième chapitre, dans les 7 premiers versets que nous avons vus hier, nous avons trouvé la bien-aimée en quelque sorte dans un bonheur sans nuage, conduit dans la salle du festin, à l'ombre de la bannière d'amour du bien-aimé, entouré dans ses bras, entouré de son amour, elle se repose vraiment dans une éternelle étreinte. Elle prend plaisir à ce qu'il est. Elle a parlé de son ombre, de son fruit, de son festin, de sa bannière, de sa main gauche et de sa droite. Et pour elle, il n'y a que le bien-aimé qui nous l'avons découvert, c'est le Christ. Le Christ est tout pour une âme qui a goûté à son amour. Et quand l'âme est occupée de lui, alors le Seigneur veille pour qu'elle ne soit pas troublée. Soyez donc sur vos gardes, comme les gazelles et les biches des champs qui sont sensibles au moindre danger. Et l'on peut voir dans ces filles de Jérusalem qui sont exhortées à ne pas réveiller, à ne pas intervenir dans le travail que Dieu fait dans l'âme de la bien-aimée, eh bien, on peut y voir tous ceux qui voudraient, parmi les croyants, s'occuper de notre âme. Il faut faire très attention. Dès qu'une âme vient au Seigneur, vous avez toute espèce de corbeau, plus ou moins noir, et qui s'approche pour s'occuper de votre âme. Ils sont pleins de sollicitude pour vous, ils veulent vous conduire dans la vérité, ils veulent vous donner plus que ce que vous avez déjà reçu, et puis ils veulent vous engager dans ceci, dans cela, et vous devez participer à ceci et à cela, alors que vous êtes en train justement d'être travaillé par le bien-aimé, et on voudrait vous bousculer en quelque sorte. Ne vous laissez pas bousculer par toutes ces âmes bien intentionnées, extrêmement spirituelles, qui veulent vous montrer le chemin où vous devez marcher. Moi, je suis vraiment attristé de penser que on a si souvent critiqué une certaine église en disant qu'elle mettait toujours des intermédiaires entre Dieu et les hommes. On a dit que il y avait un seul médiateur entre Dieu et les hommes, puis nous devenons des médiateurs. Nous voulons diriger votre vie. Nous l'avons dit souvent, n'est-ce pas, nous ne voulons pas d'un pape, mais nous avons des soupapes. Alors attention à cela. Parce que dans tous les milieux, on peut devenir des petits papes. On ne se rend pas compte qu'une âme que le Seigneur a sauvée est absolument sous sa garde. Oui ou non? Est-ce que vous faites confiance au Seigneur pour une âme? Alors n'y mettez pas la patte. Parce que si vous y mettez la patte, vous devrez mettre des peaux de bic sur vos mains. Et c'est dangereux. Dieu fait son œuvre. Et ne pensons pas que c'est à nous de réveiller une âme dont le Seigneur est en train de s'occuper. C'est le verset 7. Et au verset 8, alors qu'elle est encore dans son repos, l'âme, nous l'avons vu, aperçue la voix de son bien-aimé. Elle la reconnaît aussitôt, car elle est une de ses brebis, une des brebis du bon berger. Elle a entendu sa voix, maintenant elle la reconnaît. Et quand une âme est demeurée longtemps et sans interruption dans la communion avec le Seigneur, elle s'attache à lui d'une manière vivante. Et elle désire ardemment sa venue, la voix de mon bien-aimé. Le voici qui vient. Et là, je voudrais souligner encore que la révélation de la venue du Seigneur est pour une âme sauvée la plus grande bénédiction. Je me souviens toujours l'humiliation que j'ai eue quand, après avoir été un instrument pour la bénédiction d'une âme, j'ai attendu assez longtemps avant de parler à cette âme de la venue du Seigneur. Et cette âme, qui était une âme vraiment ardente, qui est maintenant auprès du Seigneur, m'a dit, « Et tu as mis si longtemps pour me révéler cela? Toi, tu en as joui de cette pensée du retour du Seigneur? Et tu as mis si longtemps pour me révéler ces choses. » Alors, oui, il faut être à l'heure. Et je me demande si cette révélation du retour du Seigneur a été saisie par vos âmes. Tous savent que le Seigneur va revenir.
c'est dans tous les credos.
Il reviendra pour juger les vivants et les morts, etc. Les juifs croyants, eux aussi attendent le Messie. Je dirais même les arabes. Les musulmans attendent le retour de Christ. Mais les chrétiens, qui est-ce qui croit au retour de Christ? Oui, dans les milieux évangéliques. Mais la plupart du temps, est-ce que nous l'attendons vraiment? Car, voyez-vous, il y a une grande différence entre croire à la doctrine du second avènement du Christ et l'attendre d'une façon constante. Attendre d'une façon constante sa venue. C'est cela la bienheureuse espérance. C'est comme cela que les Thessaloniciens nouvellement convertis vivaient depuis leur conversion. Ils s'étaient détournés des idoles, parce que c'était des païens, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui les délivrait de la colère à venir. Et dans cette attente du retour de Jésus, eh bien, ils manifestaient une foi qui produisait des œuvres, un travail qui venait de leur amour pour le Seigneur, et une patience qui était nourrie par l'espérance et qui les habitait. C'est les termes mêmes que nous trouvons dans le chapitre 1er de la première épître aux Thessaloniciens. Il vient. Qu'y avait-il de plus doux que la communion où nous avons pu jouir de l'amour si tendre de Jésus dans ses bras, quand nous nous sommes abandonnés. Il semble que c'est là que nous devrions rester. Mais le Seigneur veut nous conduire plus loin. Une maman ne veut pas garder toujours son petit dans ses bras, il n'apprendrait pas à marcher. Il faudra le déposer et on ne peut pas le garder toujours dans ses bras et sur notre sein. Alors, le Seigneur agit de la même manière avec une âme. Mais tant qu'il faut que l'enfant, le petit, soit dans les bras, eh bien, il sera dans les bras. Mais ensuite, la mère a assez de sagesse pour mettre son enfant par terre, même s'il fait quelques chutes. Il vient. Et je vous demande, est-ce que vous connaissez ce tressaillement? On entend d'abord sa voix qui semble lointaine, mais voilà, il approche, et aucun obstacle ne va l'arrêter. Et il est déjà tout prêt, comme nous l'avons vu hier soir. Et si nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur, la pensée de son retour, que nous allons le voir, non plus de loin, par la foi, mais par les yeux de nos corps glorifiés, bien cela nous transporte de bonheur. Mais je me suis demandé hier soir si vraiment tout était heureux en pensant que le Seigneur pouvait venir d'un instant à l'autre. Et j'ai eu un doute. Et je me suis demandé vraiment, est-ce que nous sommes tous heureux avec le Seigneur? Certes, nous sommes tous en sûreté en lui. Vous ne doutez pas de votre salut. Vous savez que vous êtes sauvé, que cela n'a rien à faire avec ce que vous pouvez ressentir, vos sensations, vos sentiments. Parce que si vous attendez de sentir que vous êtes sauvé, ben vous pouvez attendre encore longtemps. Ça n'a rien à faire avec nos sentiments. L'œuvre de notre salut a été faite en dehors de nous. Et je crois à cette œuvre par la foi. Je m'empare des résultats de cette œuvre. Pourquoi pas parce que je sens quelque chose, mais parce qu'il me l'a dit. C'est ça la foi. On croit Dieu. On prend Dieu au mot. Alors, nous n'avons pas à avoir à faire avec nos sentiments. Son œuvre est parfaite et notre salut ne dépend pas de ce que nous ressentons. Mais, si nous nous sommes laissés, depuis notre conversion, gagner par le monde, si nous nous sommes habitués à être des sauvés. On est tellement content d'être des sauvés. Il y a X années que je suis un sauvé. Je dis quelquefois, et vous m'avez déjà entendu le dire quelques-uns, ça m'agace finalement de me dire, on est un sauvé, je suis un sauvé. Moi je dis, je suis un racine alors. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent sauvés au Canada, il y en a beaucoup. Hein. Mais nous dire que vous êtes sauvés, mais est-ce que vous l'êtes aujourd'hui? Est-ce que votre vie manifeste le si grand salut de Dieu? Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans sa poche, c'est un être qui vit en nous. C'est ici la vie éternelle qu'il te connaît, seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. D'une connaissance qui n'est pas une information, mais qui est une relation, qui est une union, qui est une identification. C'est cela, la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose, la vie éternelle, c'est quelqu'un. Alors, évidemment, si nous nous sommes habitués, ben, je suis un sauvé, et puis que nous avons de nouveau jeté les yeux sur le monde, eh bien, nous trouvons que le monde, au fond, n'est pas si mal que cela. Puis toutes choses sont permises, tout est pur pour celui qui est pur. Et puis on calme notre conscience, et puis c'est ni noir ni blanc. N'est-ce pas? Il faut voir toutes choses, il faut vivre avec son temps. De sorte que, tout à coup, quand on nous parle que subitement le Seigneur pourrait revenir, on a un malaise. Et nous préférions qu'il ne revienne pas bientôt. Et alors, on voudrait plutôt suivre un autre courant théologique, si on peut parler de courant théologique. Et je voudrais vous rappeler le souvenir de l'apôtre Pierre, hein. La nuit où Jésus fut libéré, il a pris un repas avec ses disciples. Et puis, comme personne n'a fait le service qui aurait dû être fait, le Seigneur s'est levé de table et a été lavé les pieds des disciples. Et personne n'a bronché. Alors, il lave les pieds d'un, il lave les pieds d'autre. Mais quand il arrive à Pierre, « Ah, Seigneur, non, non !» Pierre n'a pas dit, « Seigneur, passe-moi le baquet, je vais continuer. » Non, il dit, « En tout cas, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. » Jamais. Et Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Pierre était en lui, mais est-ce qu'il était avec lui? Est-ce qu'il aurait une part avec lui? Vous êtes sauvés, vous êtes en lui, mais est-ce que vous aurez une part avec lui? C'est là la grande différence. Est-ce que vous êtes avec lui? Et voyez-vous, pour être avec lui, il faut se laisser laver chaque jour les pieds. Et qu'est-ce que c'est ce lavage des pieds? Bien, on est sauvé, on a tout le corps lavé, comme dit Jésus, hein, par la foi. Mais nous vivons dans un monde de péché. Nous ne sommes pas encore tout de suite pris dans le ciel à notre conversion. Et vivant dans ce monde de péché, nous contractons chaque jour, au fond, quelques souillures. Qui est-ce qui peut dire qu'il ne pêche jamais? Soit en pensée, soit en parole, soit en action. Et nous sommes appelés quotidiennement à nous juger de nos fautes. Ça fait partie des petits renards, ça. Hein. Ces fautes qui nous paraissent pas bien grandes, mais qui pourtant nous voilent la personne du Seigneur. Et Jésus est catégorique. Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. Il faut donc que nos péchés dans la marche soient confessés. Alors, voyez-vous, pourquoi dire, ben voilà, mon maître tarde à venir. Depuis si longtemps qu'on nous dit que Jésus reviendra, et puis il n'est pas encore revenu. Alors on commence à se relâcher, c'est ce que Jésus a averti, parce que il pouvait se passer encore tout un temps avant son retour. Il dit que certains serviteurs diront, mon maître tarde à venir. Et puis, ils commenceront à se relâcher dans leur conduite et à être impossibles avec leurs frères. Tout cela a été annoncé par Jésus. Alors je dis que c'est le langage des mondains, ceux qui n'aiment pas, des chrétiens mondains, ceux qui ne pensent pas que que vraiment ce serait un bonheur que le Seigneur revienne. Et ne connaissent pas la réalité de son amour. Pourquoi attendre Jésus des cieux? Pourquoi l'attendre aujourd'hui? Par amour. Le Seigneur est proche. Il est derrière la muraille. Il regarde par la fenêtre. Il voudrait nous conduire plus loin. Voyez-vous le danger qu'il y a quand on est sauvé? C'est de devenir aussi des Laodicéens. On est heureux, on est sauvé, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Puis voilà que le Seigneur est dehors. Il faut passer la muraille. Du reste, ce n'est pas la muraille du Seigneur, nous l'avons vu, c'est nous qui construisons des murailles. C'est nous qui construisons toutes ces séparations. Le Seigneur est venu et par sa croix, il a détruit le mur qui nous séparait ou des Juifs ou des païens. Tout est détruit et maintenant nous sommes un en Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas être de ceux qui mettent des murailles. Et voyez-vous, le Saint-Esprit, et c'est ça une chose qui doit vous rester, le Saint-Esprit ne met pas de murailles. Le Saint-Esprit ne divise pas. Le Saint-Esprit unit les enfants de Dieu. Oui, il y a des murailles, mais c'est une muraille entre le chrétien et le monde. Il faut reconstruire les murailles sur leur emplacement. Or, la plupart du temps, nous avons construit des murailles entre frères. Et chacun est dans sa tour d'ivoire. Les murailles sont très hautes, mais au fond, le monde a passé par-dessus la muraille et le monde est entré dans tous nos milieux. Le monde est dans les milieux les plus évangéliques. Faisons attention à cela. On croit qu'on est séparé, mais au fond, on est surtout séparé de nos frères, mais pas tellement du monde, des coutumes du monde, des habitudes du monde. On arrive à être comme le monde. Et alors, comment voulez-vous que le Seigneur soit heureux de cet état? Il voudrait nous appeler hors de nos murailles pour qu'on soit vraiment avec lui et avec tous ceux avec lesquels lui-même se trouve en communion. Voyez-vous, si vous vous croyez riche à cause des bénédictions passées, n'oubliez pas qu'on ne vit pas des bénédictions passées. On est reconnaissant de ce que le Seigneur nous a donné, mais on va de l'avant, on court droit au but, comme le dit saint Paul, oubliant les choses qui sont derrière, on tend avec effort vers celles qui sont devant, pour le prix de l'appel céleste de Dieu. Alors le Seigneur nous appelle à le suivre, il nous appelle à venir à lui, il veut nous faire jouir de tout ce que le printemps spirituel nous donne, même si Jésus est encore au ciel maintenant, et nous sur la terre, nous pouvons marcher avec lui, en liaison directe avec lui, éprouvant sa présence par son esprit. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Il nous a envoyé son esprit, qui est notre consolateur, et nous pouvons connaître, même dans ce monde, la saison des champs, les signes aussi de ce que sera son retour en gloire. Alors, le Seigneur attend d'entendre notre voix. Et je vous le demande, où avez-vous votre sécurité dans un tel monde? On arrive à ce merveilleux verset, dans le creux du rocher. Et nous avons vu ce qu'était ce creux du rocher, le côté percé du Seigneur. C'est dans la mort du Seigneur que nous avons notre sécurité dans ce monde. La mort opère en nous pour que la vie opère chez les autres. Et ça, c'est une vérité profonde que je vous exhorte à méditer. Le rocher frappé. Et nous pouvons dire aussi que dans ces versets, nous trouvons toute l'application que les bien-aimés qui auront passé la tribulation, les bien-aimés qui viendront de la grande tribulation et qui sont spécialement des Israélites, et ceux aussi qui seront convertis après l'enlèvement de l'Église, parce que l'Évangile sera encore annoncé. C'est tout à fait faux de penser que le Seigneur ne peut revenir que lorsque toutes les nations de la terre auront entendu l'Évangile. C'est de la pure folie. Parce que ça veut dire que le Seigneur ne reviendra jamais. Parce qu'il y aura toujours des naissances, tant que le monde est monde, et il y aura toujours des personnes qui devraient naître de nouveau. De sorte que jusqu'à ce que tous soient nés de nouveau, ben, il faudrait stopper les naissances. C'est peut-être ce qu'on veut faire maintenant avec la pilule et l'avortement, hein, pour qu'il n'y ait plus de naissances, pour qu'on puisse convertir le reste des gens. On est complètement illusionné. On pense que parce qu'on fait des grands mouvements d'évangélisation, ça va régler la question. C'est une vision absolument fausse et qui n'est pas biblique, même s'il est des hommes et qui auront à répondre selon les lumières qu'ils auront reçues au Seigneur. Alors, nous ne jugeons personne, mais nous voulons accomplir la tâche que le Seigneur nous a donnée, mais en sachant ce que la prophétie biblique nous montre. Le monde n'ira pas en s'améliorant. Et ce n'est pas parce que vous serez une grande église et que le monde vous reconnaîtrait que le Seigneur sera glorifié. Est-ce que le monde a reconnu Jésus? Oui ou non? Il l'a crucifié. Est-ce que le monde accepte aujourd'hui Jésus? Est-ce que le monde est en train encore de se christianiser? Nous sommes en pleine déchristianisation. Complète. C'est l'islam qui va monter. Alors attention, mes amis, ne vivez pas dans l'illusion. Ce que nous devons attendre, c'est celui qui a promis sa venue. La colère de Dieu s'amasse sur le monde. Certes, il y a un peuple qui est le peuple de Dieu, qui est Israël, mais qui ne reconnaît pas encore son Messie. Il est arrivé dans sa terre avec plusieurs moyens humains et par l'appui des nations dites chrétiennes, mais il se trouve en conflit avec une multitude de peuples et il semble à tout moment que son existence est vraiment compromise. Mais quand Dieu voudra intervenir, alors Israël devra passer encore, et quand on est en Israël, nous devons dire cela aux Israéliens, ils devront passer encore par une terrible tribulation. Et c'est dans cette tribulation, qui est appelée la tribulation de Jacob, qu'ils seront amenés à regarder vers celui qu'ils auront percé, qu'ils se lamenteront et qu'ils reconnaîtront le Christ comme leur sauveur. Et j'étais un jour à Jérusalem et j'ai entendu l'ancien président du conseil israélien, Menachem Begin, qui disait dans une certaine angoisse, « Notre salut, nous ne pouvons plus l'attendre que du Messie. Hein? » Ni de l'Amérique, ni de la Russie. Notre salut ne peut venir que du Messie. Et il a cité le verset, « Le Messie viendra de Sion. » Alors, vous voyez, nous les chrétiens, nous devrions connaître ces choses. Nous devrions connaître cette ligne prophétique. Et alors, c'est évident que le Seigneur a dit dans le 24 de Matthieu que l'Évangile serait annoncé à toutes les nations de la terre. Mais ça ne compromet pas le premier acte de son retour, qui est d'enlever son Église. Et ensuite, des témoins nouveaux, convertis au Seigneur, qui ne sont pas compromis dans les iniquités chrétiennes, se lèveront pour annoncer ce qu'on appelle dans l'Écriture l'Évangile du Royaume au monde entier. Et avec des moyens de communication extraordinaires qui sont préparés maintenant, et le monde entier aura encore l'occasion d'entendre l'évangile du royaume. Mais, comme ce sera le temps de l'Antichrist, et qu'Israël aura reconnu l'Antichrist, eh bien, ceux qui auront été réveillés et qui se seront convertis au Seigneur et qui ne voudront pas la marque de la bête, eh bien, seront persécutés. Et alors, ils se réfugieront dans les rochers, dans les lieux escarpé. Et vous savez, toute cette parole sera encore en bénédiction pour Israël, parce que le Cantique des Cantiques sera le grand livre qui consolera aussi les Israélites opprimés et ceux qui se seront convertis à l'évangile du royaume. Mais alors ne dites pas, eh bien moi, si le Seigneur ne m'enlève pas, je me convertirai après. Hein? Parce que je saurai que c'est vrai. Je saurai que c'est vrai ce que la Bible disait, quand toute une partie de l'humanité aura disparu, qui arrangera bien les choses de ce monde, n'est-ce pas, parce que ça créera des emplois, et puis il y aura des finances, parce que vous imaginez pas les chrétiens emmenant leur compte en banque, au ciel, pour remplir les coffres du Seigneur. Ça va remplir les coffres de l'Antichrist. Et ça va financer l'œuvre de l'Antichrist, et qui aura toute espèce de miracle pour se faire accréditer. C'est quelque chose d'affreux quand on y pense. Eh bien, que le Seigneur parle à nos consciences, parle à nos cœurs, et que nous puissions comprendre que si nous avons refusé l'évangile de la grâce, nous qui l'avons connu, hein, si nous ne l'avons pas reçu, si vous ne le recevez pas aujourd'hui, demain, ce sera votre condamnation. Parce qu'alors, une puissance d'erreur viendra sur le monde christianisé, sur la chrétienté en particulier, et parce qu'ils n'auront pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, qu'est-ce qu'ils croiront? Le mensonge. Est-ce que vous ne voyez pas la préparation aujourd'hui? Les gens croient le mensonge. La superstition augmente, c'est les faux cultes, c'est les dieux de ce siècle, de ce monde qui sont mis en avant, et Jésus, quelle place a-t-il? Il reste petit Jésus, tout petit Jésus, dans les bras de maman. Alors, puissions-nous nous réveiller et saisir à nouveau la profondeur de la parole de Dieu. C'est simplement pour vous dire qu'il y a encore d'autres applications dans le Cantique des Cantiques, le rocher, les lieux escarpés où trouveront un refuge, ceux qui devront quitter leur foyer à cause des terribles persécutions qui auront lieu sous l'Antichrist. Mais pour nous, ce que nous attendons donc, c'est Jésus. Alors, veillons au petit renard, et jusqu'à ce que l'aube se lève, eh bien, oui, puissions dire, mon bien-aimé est à moi. Mais si vous dites cela, qu'il est votre bien-aimé, vous voudriez qu'il revienne. N'est-ce pas? Vous avez sa présence, spirituellement parlant, par le Saint-Esprit, mais vous voudriez sa présence, plus réelle encore, être avec lui, là où il est, pour que lui puisse enfin présenter à son Père le fruit du travail de son âme, comme le dit Ésaïe 53, et en être satisfait. Alors, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une certitude, car notre salut, je le répète une dernière fois, ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de ce que lui a fait. Et tout à coup, eh bien, nous aurons, après des expériences heureuses, des débuts de notre conversion, et de la communion que nous avons, tout à coup, ce sera le vide. On n'éprouvera plus, et cela, vous devez l'éprouver, vous n'éprouvez plus cette présence. Et ça, c'est encore permis par le Seigneur. Tout à coup, alors on ne le sent plus, et alors l'âme s'écrie, mais reviens, reviens, et reviens rapidement pour qu'à nouveau, j'éprouve vraiment ta présence. Mais le Seigneur va nous conduire pour que cela puisse se produire, il va nous conduire, comme nous allons le voir, au désert. Alors, la parole est maintenant à vous. Après que je vous cite l'exemple de Job, pour illustrer ce moment où un homme de Dieu, duquel Dieu a rendu un témoignage fantastique, il n'y en a pas un comme lui, parfait, droit, craignant Dieu, se retenant du mal. Et tout à coup, il s'écrit au chapitre 23 de ce Dieu qui a rendu un tel témoignage, « Voici, je vais en avant et il n'y est pas. En arrière, je ne l'aperçois pas. Il se cache à droite, je ne le distingue pas. À gauche, quand il opère, je ne le sais pas. » C'est vraiment la nuit obscure, la nuit totale. Et vous ne pouvez pas échapper à cette nuit des sens, à cette nuit de l'esprit, où justement le Seigneur va faire grandir votre foi. C'est dans la nuit totale où l'on ne ressent plus rien que notre foi va être fortifiée. On a dit que les racines du chêne ne poussent qu'en temps d'orage. Les orages obligent en quelque sorte le chêne à enfoncer davantage ses racines dans le sol pour tenir. Et ces moments de nuit totale que nous pouvons connaître, où il nous semble, malgré les expériences que nous avons faites, derrière nous, il n'y est pas. Devant nous, malgré qu'on avait la foi, il nous semble que c'est l'abîme, ni à gauche, ni à droite. Alors on est dans la nuit. Alors qu'est-ce qu'on doit se dire? Même les ténèbres ne sont pas obscures pour me cacher à toi. Psaume 139. La nuit resplendit comme le jour, l'obscurité est comme la lumière. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que je fasse ma demeure au bout de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Job s'écrit pour finir après avoir constaté qu'il ne sent plus, qu'il n'éprouve plus rien. Il semble que Dieu l'a abandonné. Il dit, mais il connaît la voie que je suis. Il m'éprouve, je sortirai comme de l'or. Et alors il met encore une fois sa confiance en son Dieu, et il peut s'écrier, même s'il me tuait, j'espérerai en lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. Alors maintenant, dans votre chapitre 3, qu'avez-vous découvert dans ces 5 premiers versets? En vous souvenant des règles enseignées à l'école de Jésus.
La première fois, on voit qu'elle le cherche sur son lit, elle ne l'a pas trouvé. Ensuite, elle va dans les rues de la ville où il y a du bruit, et elle ne l'a pas encore trouvé. Mais ça revient encore, c'est quand elle se décide d'aller dans l'intimité, dans la maison, dans la chambre, là, elle dit qu'elle l'a trouvé.
Oui. Et vous avez remarqué que avant elle parlait de notre lit. Puis maintenant elle parle de son lit. Il n'y a plus le Seigneur dans son repos. Il y a eu donc relâchement. Elle sent son absence. Avant c'était notre lit. C'est très intéressant de voir chaque fois qu'il est parlé du lit. Eh bien, merci Françoise d'avoir souligné ça. Et puis alors, ce sentiment de l'absence l'a fait rechercher le Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'il lui avait dit dans les versets que je viens de résumer de nouveau? Deux fois, il lui a dit, lève-toi. Elle ne s'est pas encore levée. Elle n'est pas sortie derrière son mur. Elle s'est mise au lit. Alors, si je me mets au lit quand il me dit de me lever, même que je lui appartiens, que je dis qu'il est à moi, je suis seul dans mon lit. C'est vrai ou c'est faux? Il lui a dit, lève-toi, lève-toi. Deux fois. Fais-moi entendre ta voix, ton visage m'est agréable, elle se met au lit. Alors, évidemment, tout à coup, dans son lit, elle pense, elle médite, puis elle cherche celui qui aime son âme, il n'est pas là. Et vous avez remarqué combien de fois il a dit « je l'ai cherché » dans ces quelques versets. 4 fois. Alors, c'est une recherche intense. J'ai cherché celui qui aime mon âme. Je l'ai cherché de nouveau, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur ne se fait pas trouver immédiatement? Vous vous souvenez que vous avez eu ce sentiment que le Seigneur n'était pas là, puis vous avez cherché, puis il n'a pas répondu. Pourquoi? Oui, et puis parce qu'il voudrait que vous le cherchiez plus profondément. Comprenez-vous? Votre recherche, elle est encore trop superficielle. Alors, il faut vous crier. Oui? Plus fort.
Qu'à un moment donné, c'est que c'est pour moi, j'ai tendance déjà à tomber dans une certaine routine.
Oui.
Que j'ai des choses, je reçois des bénédictions, tout le reste, puis ça va bien comme ça, je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai une statue.
Oui.
Puis, c'est très dangereux aux autres esprits, dans le sens que l'esprit de partir dans un. L'esprit de Dieu de partir dans un esprit à l'est.
Oui.
Puis, dans ce sens-là, c'est que je cherche, quand tu cherches, on dirait que tu te ramènes à quelqu'un, de tout. Dans le sens, bon, mais c'est vraiment une question en profondeur sur, n'est pas la vérité en petite boîte, mais tu l'élargis.
Oui.
Tu viens moins secteur, tu l'élargis.
Oui.
Tu sais travailler à travers.
Oui.
Puis, à un moment donné, c'est que quand tu as perdu ces sens-là, à un moment donné, tu les gardes. Les gardes, ça veut dire, le mot le dit, ils gardent quoi au jeu? Ils gardent la ville, les valeurs de la ville. C'est-à-dire, ce qui est conscient, cette ville-là. C'est des valeurs mondaines, des valeurs très terre à terre. Puis, je les ai trouvées, ils m'ont trouvé, salut, peut-être, ça va. Mais je les ai laissées tomber parce que j'ai connu avant qui est le Seigneur, et c'est lui qui cherche pour les autres. Que je me sens malheureux, même s'ils sont là, les gardes, les gens de la ville. C'est-à-dire, c'est pas eux autres que je veux, ils continuent. Puis, ce travail-là, c'est cette certitude-là que réellement, j'ai fait un choix. J'ai eu des gardes, puis j'ai refusé ce qui m'était offert, même si j'avais une absence d'eux, c'est, ça m'a fortifié, puis j'ai eu, après, la présence de Jésus.
Ouais. Tu vois que c'est pas les gardes qui peuvent te donner une réponse. Ils ont peut-être des prétentions, mais ils ne peuvent pas nous donner une réponse. Et si vous y pensez bien, elle aurait dû savoir où on pouvait le trouver. Est-ce que c'est dans la ville? Dans le bruit de la ville? Où est-ce qu'elle l'avait trouvé? Dans l'intimité de la chambre, et puis dans les verts pâturages. Hein. Si vous reliez cela au chapitre premier, hein, quand elle dit « Où es-tu ?» Il est avec son troupeau quand même. Alors, sort sur les traces du troupeau. Mais elle va dans la ville. Ça vous fait pas penser un peu à Marie et Joseph? Ils cherchent, n'est-ce pas? Ils cherchent Jésus. Ils le cherchent dans la ville et il est où? Au temple. Hein? Et quel est le temple? Notre cœur.
J'ai pensé, comme vous disiez, à Marie qui cherchait Jésus. Mais Jésus avait 12 ans. Et puis, pour moi, ça m'a fait penser que. Si le Seigneur, pour moi, il n'est pas assez fort en moi, c'est trop petit, je risque des fois de le chercher. Et puis, c'est ça que ça me fait penser, mais le Seigneur n'est pas assez fort en moi. Je risque d'être confus.
Oui. Alors il faut qu'il grandisse en toi.
C'est ça. Et puis en plus, il faut toujours prêter attention au Seigneur. Il ne faut pas le faire. Ça me fait penser à ça.
Parce que voyez-vous, Jésus est enfant en nous d'abord, adolescent, puis homme fait, il doit grandir en nous. Quelqu'un d'autre?
C'est un encouragement pour moi, une exhortation durant les nuits qu'on peut traverser. Elle dit que le chercher, celui que son âme aimait, elle ne l'a pas trouvé, mais je pense que des fois on peut avoir des questions. Mais on ne doit pas se décourager, on continue, même si on n'a pas trouvé la première fois. Je ne veux pas dire qu'on va trouver encore, on n'a pas encore trouvé la deuxième fois, mais on persévère à ce moment-là, on ne se décourage pas, parce que c'est plus à peine avec je pensais plus loin. Des fois, on a juste un pas de plus à faire. Puis, la bénédiction, une fois qu'elle a trouvé, elle ne le lance pas, comme Jacob qui voulait plus mettre béni. Elle n'a pas gardé la bénédiction juste seulement pour elle, mais elle l'a emmenée dans la maison de sa mère. Et puis, au verset 5, on voit que qu'il travaille à conserver sa paix.
Oui. C'est bien. Merci.
Le verset 4, ça m'a fait penser que quand on trouve le Seigneur, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes.
C'est vrai. Jacques?
Ben, moi, c'est peut-être ça, comme durant les nuits, par exemple, quand on arrive dans une nuit comme ça, qu'on cherche celui de notre âme-même, je ne pas chercher partout, par exemple. C'est parfois dans les villes, par les gardes, parce que même aussi, peut-être de poser la question aux gardes. Ils n'ont trouvé celui que mon âme aime. Parce que si les gars n'ont pas trouvé celui que mon âme aime, comment pourraient-ils me répondre?
Non, ils ne l'ont pas trouvé eux-mêmes, alors.
C'est préférable d'aller plus loin que les gars.
Oui. Et dès que tu as dépassé les gars, tu le trouves. C'est des choses qu'on doit dépasser, tout cela. Au fond, quand est-ce que le fils prodigue a retrouvé son père? C'est quand il est rentré en lui-même. Et au fond, il est tout au fond de notre cœur. Mais voilà, le Seigneur n'occupait plus la même place. Nous n'avions plus la même affection. Oui, il est encore celui qui notera même, c'est vrai. Mais au fond, on a été davantage préoccupés de nos aises. Et puis, heureux de notre salut. Puis voilà, on s'est reposer. Alors, il faut que ça reste notre lit quand on se repose. On se repose avec lui, on se repose en lui. Et nous allons le rechercher quand soudainement nous comprenons qu'il est absent, quand nous passons par ce moment. Et cette recherche, alors, devient profonde. Nous avons compris que notre seule sécurité, en attendant la venue du Seigneur, c'est d'être à la croix, caché, qu'on lui crucifié avec lui. Parce qu'il n'est point suffisant de se reposer sur les expériences passées et de nous réjouir parce que notre bien-aimé est à nous ou parce qu'il paie parmi les lys qu'il a plantés en nous. Il faut aller de l'avant vers le but. Comprendre sa volonté dans la nuit de la foi. C'est cela. Comprendre sa volonté dans la nuit de la foi. Parce que le Seigneur nous éclaire et nous avançons. Même si nous n'avons plus le sentiment de sa présence, on se lève parce qu'il a dit « Lève-toi ». Et je crois que c'est absolument nécessaire qu'on passe par cette purification, par cette nuit de l'âme, par cette nuit des sens, qu'on passe le mur qui nous séparait des autres, parce que le lit n'est plus celui des épousailles, mais c'est est devenu notre lit, mon lit, et le Seigneur n'est plus là. Alors c'est le lit de la maladie, de la fièvre, et alors il faut se lever. Quatre fois nous trouvons dans le Cantique des Cantiques cette expression « celui que mon cœur aime ». Alors, dépassons donc les gardes, souvenons-nous où le Seigneur se trouve. Ce n'est ni le monde, ni les hommes, ni les gens d'église qu'on peut voir aussi dans les gardes qui peuvent nous donner la présence du bien-aimé, croyez-le bien. Il faut aller au-delà de tout. Voyez-vous, celui qui désire voir Dieu, c'est dans le fait de le suivre toujours qu'il voit celui qu'il désire. C'est vraiment l'exemple de Moïse. Moïse marchait comme voyant l'invisible. C'est en avançant dans la foi que nous pouvons voir le Seigneur. Tout à coup, alors, nous le trouvons. Et comme Paul le dit, alors on le saisit. Je cherche à le saisir, vu que j'ai été saisi par lui. Hein. Et alors, on le saisit, et je ne le lâche pas. Parce que j'avais éprouvé que tout en étant à lui, je l'avais lâché. Alors, maintenant, je ne vis plus de mes souvenirs, de ma conversion, je vis de lui aujourd'hui. Mon salut est un salut quotidien. Parce que, dans la vie chrétienne, vouloir garder, c'est quoi? C'est perdre. Hein? C'est vrai. Hein? Vouloir garder, c'est perdre. Alors, reposons-nous sur sa parole. Elle ayant trouvé, eh bien, le désir, c'est de l'amener dans la maison de ma mère. Évidemment qu'il y a aussi là toute une application pour Israël. La mère, c'est Israël, si vous le voulez. Mais aussi, on peut voir notre maison naturelle, d'où nous sommes nés, nous voudrions introduire le Seigneur dans la maison. Mais qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? C'est pas le Seigneur que nous introduisons dans la maison de notre mère. Ce qui fait tellement de bagarres, qu'est-ce qu'on lui y introduit? Une doctrine. C'est vrai ou c'est faux? On arrive dans la maison de notre mère avec un paquet de doctrines. Et on est des petits théologiens et on veut enseigner nos parents. Et on est plein de reproches pour eux, parce qu'ils ne nous ont pas élevés dans la bonne religion, etc. Et nous semons la bagarre. C'est vrai ou c'est faux? Au lieu de nous humilier et de remercier peut-être nos parents d'abord pour ce qu'ils ont fait pour nous, parce qu'ils ont quand même été là, il y en a qui avaient la crainte de Dieu, ils ne pouvaient pas vous donner plus qu'ils n'avaient. Ils n'avaient pas assez de lumière. Mais ils vous ont déjà donné quelque chose. Alors remerciez-les pour ce qu'ils vous ont donné. N'apportez pas dans la maison de votre mère des doctrines, même des doctrines exactes. C'était des doctrines exactes, mais n'en ont pas encore la connaissance. Apportez le Seigneur. Montrez, alors sans parole d'abord, soyez un parfum. Comme j'ai essayé de le dire dans un de mes petits livres, être chrétien. Le témoignage chrétien, c'est d'abord d'être un parfum. Un parfum, ça ne parle pas, ça se respire. Mais on le sent. Alors, apportez ce parfum. Ensuite, vous êtes la lettre de Christ. Une lettre, ça ne parle pas, ça se lit. Et la volonté de Dieu, elle sera vue, incarnée dans votre vie, et non plus sur des tables de pierre. Et puis, ensuite, le témoignage chrétien, c'est d'être l'image du Christ. Une image encore, ça ne parle pas, ça se contemple. Si vous contemplez le Christ se reflète en vous. Vos parents verront qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement. Mais n'apportez pas une doctrine, ne parlez pas de doctrine, ne parlez pas de religion. Manifestez par votre vie que vous êtes transformé. Alors, un jour, vos parents vous demanderont la raison de l'espérance qui est en vous, et vous pourrez ouvrir votre bouche. Et vous ne déprécierez pas le nom de Jésus. Et vous ne déprécierez pas non plus sa parole. Parce que bien souvent, vous tannez ceux de la maison de votre mère avec la Bible. Et ils n'en veulent plus de la Bible. Mais montrez que la Bible vous influence et que vous êtes transformé. Et c'est cela qui touchera vos parents. Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des champs, oui, veillez à ces dangers et qui font sursauter les gazelles et les biches des champs. N'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. Ne forcez rien. Laissez le Seigneur faire son œuvre. Parce que sans ça, vous gâtez tout. C'est la deuxième fois que vous avez cette exhortation. Et surtout, quand vous êtes converti, souvenez-vous du premier commandement vis-à-vis de vos parents, du premier commandement de Dieu avec une promesse, c'est lequel ? Honore ton père et ta mère. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas honoré leurs parents. Ils se sont jetés dans la drogue, non pas parce que les parents les ont poussés, ils ont peut-être pleuré, ils se sont jetés dans l'alcool, dans le sexe, dans tout ce que vous voulez, malgré que les parents avaient pourtant la crainte de Dieu et leur avaient donné une autre éducation. Mais on a pris un autre courant. On a trouvé les parents vieux, eux. Puis on les accuse de tout maintenant qu'on est évangélique. Maintenant qu'on a la lumière. Si vous avez la lumière, c'est pas pour éblouir ceux de la maison de votre mère. C'est pour les éclairer sur le chemin, discrètement. Soyez humbles, soyez petits, soyez patients, priez. Attendez que le Seigneur vous ouvre les lèvres. J'ai souvent cité cet exemple d'un homme que j'ai connu à Nice, un savant, et qui donnait des conférences, et qui disait un jour, il était mathématicien, « Donne-moi, Seigneur, de donner à cet homme qui est incrédule des leçons de telle manière qu'il soit si satisfait qu'un jour, tu me donnes 2 minutes pour lui parler de toi. » Parce qu'il y a une préparation. Tandis que j'en ai connu aussi sur la Côte d'Azur, qui étaient des grands distributeurs de pamphlets, et j'ai rien contre ces distributions, mais attention, je pense à un homme qui était bien brave, si vous voulez, mais il pensait qu'il devait mettre Jésus à toutes les sauces, et que c'était le nom qui sauvait, qu'il fallait, même s'il était chez l'abbé Goum, et vous savez qui était l'abbé Goum, hein? Ah non, c'est que je suis dans les pays nouveaux. C'était la femme de l'Agacan. Vous savez qui était l'Agacan? Vous le savez, il était assez corpulent ce temps-là. On peut, oui, c'est le roi, le prince des Ismaélites. Hein. Alors la Bégom, elle avait son bel appartement sur la Côte d'Azur. Alors, il allait travailler dans des maisons assez bien, mais il voulait toujours parler du Seigneur, mais il ne faut pas jeter, je dis pas que c'était un pourceau, mais il ne faut pas jeter ses perles devant les pourceaux. Et voyez-vous, ce qui recommande le plus, vraiment, l'Évangile, c'est d'accomplir un travail quel que soit le travail, mais d'une façon chrétienne. Si vous êtes peintre en bâtiment, puis qu'on vous a demandé de ravaler la façade, pour employer une expression que vous comprenez maintenant, eh bien, il faut y mettre les vrais produits. Parce que si, dans une année, tout se délabre déjà, votre évangile, vous avez voulu leur annoncer l'évangile, eh bien, puis c'est un chrétien. Et vos prix aussi. Ayez des prix justes, équitables. C'est toute chose, vos travaux manuels ou intellectuels, faites tout de cœur, comme pour le Seigneur, comme Daniel. Daniel, il était au service d'un roi païen, mais ceux qui le jalousaient ne pouvaient pas le trouver en faux, sur rien. Alors, il a eu un témoignage. Mais il a dû souffrir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, il est entré auprès du Seigneur aussi. Mais il a fait bien souffrir son Église. Parce qu'il était très absolu, puis il en disait plus que l'Écriture ne disait. Et alors quand les choses ne l'arrivaient pas, ça faisait du tort à la Bible. Parce que c'était toujours au nom de la Bible qu'il disait ces choses-là. Puis après on disait, puis ça c'est pas arrivé. Il avait la marotte d'écrire à tous les présidents des États français. Je ne sais pas s'il a écrit à René Lévesque, mais de son temps, mais il a écrit en tout cas à Charles de Gaulle, il a écrit à tous les grands de la Terre, il a écrit à la reine Elisabeth aussi. Et puis à Menahem Begin plusieurs fois. Mais lui, il voulait préciser que le Seigneur revenait avant telle date. Or, c'est cela quand on veut en dire trop. Voyez-vous, Jésus a dit que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Je vais raconter l'autre jour. Ma petite Marie-Lise, que certains connaissent et qui est venue ici au camp, et qui était en Israël pendant plusieurs années. Eh bien, elle avait 6 ans, et j'allais dans un camp, j'avais ma petite avec moi, derrière, et d'autres jeunes. Et puis, quelqu'un a parlé d'une lecture d'un journal religieux très évangélique, et prophétique aussi. On avait dit dans ce journal que le Seigneur devait revenir avant telle date. Pour montrer que c'était vraiment urgent de se tourner vers lui. Et puis, j'entends ma petite qui dit, « Alors, cette dame qui a écrit ça, elle en savait plus que Jésus ?» Hein? Pourquoi? Parce que Jésus a dit ni le jour, ni l'heure, pas même le Fils, il est dit. Hein? Alors, elle en savait plus que Jésus. Alors, veillons à ce que nous affirmons, mais dire que le Seigneur peut revenir aujourd'hui, c'est juste. Mais on nous demande alors, est-ce que vous croyez que Jésus reviendra de jour ou bien de nuit? On est vraiment stupide. Pour les uns, ce sera de jour, et puis pour les autres, ce sera de nuit, avec le décalage horaire. Et ce ne sera pas même le même jour. Ce ne sera pas le même jour. Voyez la précision biblique. Parce que quand on va de l'autre côté, hein, c'est plus le même jour. Alors vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais nous savons l'époque. Nous savons qu'il en sera comme au jour de Noé, comme au temps de Lot. Et quand je pense à ce que nous voyons même à Montréal, le congrès des lesbiennes et des homosexuels, béni encore par un évêque, le jour de Pentecôte, et on veut justifier tout cela. Or, on peut avoir toute la sympathie possible pour ceux qui sont dans cet état, mais on ne peut pas leur dire que c'est juste. Alors nous sommes dans ces jours de Sodome et Gomorre, nous sommes dans ces jours qui précédaient le déluge, la violence et la corruption. Et le déluge vint, elle est si tous périssent. Mais avant, qu'est-ce qu'il y a eu? L'entrée dans l'arche. Avant que Sodome soit détruite, il y a eu l'arrachement de Lot, mais sauvé comme au travers du feu. Est-ce que vous voulez rester dans la ville qui va brûler? Dans cette clairière même, Françoise et Josaphat peuvent en témoigner. J'avais raconté l'histoire aux enfants devant les parents de Sodome et Gomorre. Puis j'essaye toujours de dialoguer avec les enfants. Et ils répondent. Hein. Et j'avais demandé, mais pourquoi est-ce que la femme de Lot prenait tellement, attendait que l'ange devait la tirer? Il y a une petite fille qui a dit, elle attendait un trailer. C'est formidable, hein? La vérité qui sort de la bouche des enfants. Elle voyait tout ce qu'elle avait à Sodome, puis elle aurait voulu emporter quelque chose. Alors elle attendait le trailer, elle attendait la remorque. Elle attendait une remorque pour emporter quelque chose. Et nous voulons bien aller vers le Seigneur, mais avec notre bazar. Vous n'avez pas besoin de meubler le ciel de vos affaires. On est trop heureux de laisser tout cela. Car tout ce qui est dans le ciel est tellement plus merveilleux. Non, ça ne suffit pas. Alors, si plus personne n'a rien à dire, allô?
À ce moment-là, ben donc, si le garde pour lui, on peut dire, son chemin a marché, on peut dire, dans le Seigneur d'une telle manière, ça veut dire que de cette telle manière-là, elle va être agréable à ma vie. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ben, je dis, ben ok, le garde va commencer le même, là, mais je vais demander à Dieu, c'est quoi exactement le chemin que Dieu a réservé pour moi. C'est pour ça que dans le sens d'aller plus loin que le garde. Pas dans le sens de désobéir, mais plutôt dans le sens de.
Oui, mais ça ne nous isolera jamais. Parce que, d'abord, les gardes n'ont pas pu répondre. Parce que nous allons voir des gardes qui nous frappent après. Il y aura une autre expérience. Mais ici, les gardes n'ont pas répondu, ils ne peuvent pas. Alors, c'est pas s'isoler, aller plus loin que les gardes. C'est aller jusqu'à Jésus, c'est aller à Dieu lui-même. Mais si on va à lui, eh bien, il nous met aussi avec nos frères. Oui?
Je l'ai saisi, je ne l'ai pas lancé, c'est comme Jacques ce
matin. Oui, exactement, tu vois. Oui, je l'ai saisi et je n'ai pas. Et c'est là que tu as la délivrance. Quand Jacob a cessé de lutter et qu'il s'est accroché à lui, il dit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Est-ce que vous voulez le dire ça aussi? Je ne sortirai pas du camp que tu ne m'aies béni. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit au début? Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Eh bien, comme l'enfant prodigue, que nous puissions nous juger nous-mêmes, nous repentir de nos fautes, et nous rentrons en nous-mêmes, nous descendons au plus profond de notre cœur, et nous descendons dans les profondeurs de Dieu, et nous y trouvons le Père, qui nous revêt de la plus belle robe, et qui nous donne la joie que nous avions peut-être perdue, la joie de son salut. On n'a pas perdu le salut, mais on avait perdu la communion. Seigneur notre Dieu, que dans ta grâce, nous puissions recevoir toute la bénédiction que tu veux nous donner dans cette journée. Ce matin même, et dans le cours des heures qui viennent, que tu sois avec nous, que tu nous prépares pour ce soir, et que dans ta bonté, tu nous préserves de tout accident, soit sur l'eau, soit dans l'équitation. En Jésus. Amen.